Chapitre 11e. Le lendemain, en arrivant au rendez-vous, Fonlus trouva le violon enfermé dans sa gaine et le violoniste assis près du feu, perdu dans ses réflexions. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis la veille. Bertrand, pour calmer un remords qu'il avait, dit en entrant « Je dois passer à vos yeux pour le dernier des bourgeois. Aucun maître, et je les ai tous entendus, ne m'a donné le régal que vous m'avez donné ici, dans la soirée d'hier. » Et je n'ai pas trouvé un mot pour vous montrer ce que j'éprouvais. Je ne sais même pas votre nom. Pendant une heure, je ne vous ai parlé que de moi. Je compte bien que vous allez m'en parler encore. Asseyez-vous là, et répondez-moi comme vous répondriez à votre père. Toutefois, s'il faut vous l'avouer, ce n'est pas au marquis de Fonlus que je m'intéresse d'abord, mais à cette jeune fille pauvre, privée de tout bonheur ici-bas, bientôt peut-être seule au monde, ou du moins réduite à ne compter que sur vous. C'est elle que je plains, car elle a fait, j'en ai peur, un rêve impossible. Et je sais ce que font souffrir des rêves semblables. Pauvre enfant, comme je voudrais la sauver. » Alors cet étrange personnage fit subir à son interlocuteur un véritable examen, le pressant de 1000 questions sur son enfance et son éducation, sur ses goûts, sur ses sentiments, sur ses aventures de jeune homme. Bertrand, subjugué par une mystérieuse influence, répondait en effet comme si cet inconnu avait le droit de ne rien ignorer de sa vie. Quand il s'oubliait, parfois, à parler de sa mère avec un peu d'amertume, le vieillard l'arrêtait d'un geste plein d'autorité. Après qu'il eut appris tout ce qu'il voulait savoir, l'Italien garda le silence pendant quelques minutes, fixant ses yeux noirs sur les tisons. Puis il dit à Fonlus, qu'il écoutait avec un mélange d'espérance et d'étonnement, « Il faut que vous épousiez cette jeune fille, car je sens qu'elle est digne de vous. « Et je vois que vous êtes digne d'elle. Peut-être aurai-je la joie de vous la donner, ou, plutôt, ce ne sera pas moi, mais celui-ci qui fera le miracle. » Il posait la main sur l'étui noir du violon. « Ne cherchez pas à comprendre, » continua-t-il. « Obéissez-moi sans discuter. Dimanche prochain, quelques pauvres musiciens comme moi donneront dans cette ville un concert pour les pauvres. Arrangez-vous pour que Madame la marquise de Fonlus nous fasse l'honneur d'y assister, le reste me regarde. » « Ma mère ne sort pas volontiers, » objecta le jeune homme. « Par le ciel ! Je vous jure que je ne ferai pas volontiers ce que j'ai résolu de faire. Il faut, entendez-vous bien, il faut qu'elle vienne. Encore une recommandation très importante. Faites en sorte que la marquise ignore le nom des exécutants. Et maintenant, ne me demandez plus rien sur tout cela, ni aujourd'hui, ni jusqu'au dernier jour de votre vie. Nous nous reverrons seulement après dimanche. Adieu. Si j'échoue, il y aura dans ma vie... un chagrin de plus. » Lorsque Bertrand quitta la petite maison, il était à peu près aussi calme que Faust à l'issue de son premier entretien avec le diable, sauf qu'il n'avait signé aucun parchemin compromettant. Il n'en portait, à vrai dire, que des promesses. Nul prodige infernal ne s'était accompli. On ne lui avait pas rendu la jeunesse. Et pour cause, il n'avait pas eu la joie fugitive d'apercevoir, dans une vision, Marguerite à son rouet. Mais néanmoins, son nouvel ami lui inspirait tant de confiance qu'il se sentait plus d'espoir au cœur qu'il n'en avait jamais connu. En somme, la seule tâche du jeune marquis pendant 5 jours était d'abord de ne pas mourir d'impatience, si faire se pouvait, puis d'obtenir que sa mère se rendît à la soirée musicale. De ces deux difficultés, la seconde ne fut pas à beaucoup près la plus malaisée à vaincre. Madame de Fonlus était si contente de voir son fils intéressé à quelque chose qui ne fût pas Suzanne, elle le croyait, qu'on eût obtenu d'elle des sacrifices plus durs encore. Elle demanda seulement qu'on lui permît d'arriver au concert un peu tard et de le quitter un peu tôt pour ménager sa fatigue. Elle était, cela va de soi, résignée d'avance à toutes les amertumes d'un programme d'amateur, et de fait, les premiers morceaux qu'elle entendit cadraient dignement avec la salle de mairie aux peintures aveuglantes, et avec les toilettes non moins criardes des beautés du lieu. Enfin, le violoniste parut sur l'estrade, et les spectateurs du premier rang purent constater qu'il tremblait comme une feuille, ce qui les rendit fort étonnés. Ils eussent été bien plus encore s'ils avaient connu la cause de cette émotion. 2 minutes plus tôt, Bertrand était venu lui serrer la main, et tout bas, il avait dit ces 3 mots « Nous sommes là ». Le vieux musicien tenait un cahier qu'il remit à l'accompagnateur en lui chuchotant à l'oreille quelques instructions. Puis, tandis que le piano préludait, Il s'avança vers la rampe fumeuse, brandissant son archet comme une épée, fouillant l'auditoire du regard. Soudain, ses yeux rencontrèrent un visage qu'ils ne quittèrent plus. Son tour de jouer arrivait. Aux premières mesures, Bertrand ouvrit la bouche de surprise et porta les mains à son front. Cette mélodie passionnée et soupirante qui frappait ses oreilles n'avait rien de nouveau pour lui. Quelques mois plus tôt, dans la petite maison des Brettes, lui-même avait chanté, accompagné par Suzanne, « Si je vous le disais ». Alors, comprenant tout, il eut peur d'avoir été un mauvais fils sans le savoir. Il n'osait regarder sa mère assise à côté de lui. Mais il l'entendait soupirer et se plaindre tout bas, comme sous l'étreinte d'une douleur cachée. Et réellement, certaines notes arrivaient au cœur avec une acuité douloureuse, même pour un auditeur désintéressé. Père Anthony a répété souvent qu'il n'a jamais joué du violon mieux que ce soir-là. Il pourrait ajouter que nul maître n'en jouera mieux. Et ce génie va s'éteindre sans avoir été connu. Quand il eut terminé, les applaudissements éclatèrent avec une furie toute italienne. On rappela le virtuose à grands cris, mais le public fut informé que ce personnage, d'une invraisemblable modestie, avait déjà repris le chemin de sa demeure. Au même instant, une rumeur d'un autre genre s'éleva du fond de la salle. Grand témoin dans l'assistance, l'incendie du théâtre de Nice venait d'avoir lieu. Déjà commençait une panique terrible. Un magistrat municipal cria pour rassurer la foule « Ce n'est rien, c'est une dame française qui se trouve mal. » Et la fête de famille continua. Quand Madame de Fonlus, transportée chez elle, ouvrit les yeux, ce qu'elle fit bientôt, elle vit son fils à genoux près de son lit, fou d'inquiétude. Par un geste, elle renvoya tout le monde, puis elle dit à Bertrand, d'une voix encore faible, « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que nous allions entendre Père Anthony ?» Le jeune homme lui répondit en baisant ses mains, « Sur la sainteté du respect que j'ai pour vous, ma mère, je jure que j'ignorais qui était cet homme. Je ne connaissais qu'une chose de lui, son talent prodigieux. Dans une de nos entrevues, il m'a dit, je l'avoue, qu'il s'appelait Père Anthony. » Mais ce nom n'avait rien rappelé à mon souvenir. « C'est bien, » fit la marquise, touchée de l'angoisse poignante de son fils. « Ne t'inquiète pas, je me sens mieux. Laisse-moi me reposer. Demain, je n'y penserai plus. » Mais le lendemain, Marie Labrousse, devenue marquise de Fonlus, y pensait encore. Dans l'après-midi, ayant obligé son fils à faire sa promenade quotidienne, elle commanda une voiture et se fit conduire chez Père Anthony, dont le cocher, citoyen de Bordighera, connaissait l'adresse depuis qu'il était au monde. Une servante septuagénaire l'introduisit auprès du vieillard. Une fois encore, le maître et l'élève se trouvaient en présence, après un tiers de siècle de souffrance pour l'un, d'oubli pour l'autre.